Et il est 20h et presque... Il est 20h01 déjà sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Pour un flirt avec. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Colin.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Quel
hyper
plaisir.
Contente, bah oui, comme toi, d'être
bah
là
voilà.
ce soir.
Allez,
bah
on
voilà.
y va.
Allez, c'est parti.
Radio Campus Paris. Pour un flirt avec...
Capucine Delattre.
Lorsqu'ils achèvent la chanson, l'assemblée pousse un soupir et Gianni imagine les haleines des gens, dont elle sait que certains ne sont venus que pour la bière et la nourriture. Ces haleines qui s'élèvent dans les airs au-dessus de leur tête et se mélangent au dernier souffle de sa mère, se déposent sur les poutres et dans les fissures du bois, du plâtre, de sorte qu'un peu d'eux, tout comme un peu de dot, restera pour toujours. Il commence une nouvelle chanson. Le jeu de Julius est plus relâché que d'habitude, moins contrôlé. Ses mouvements de tête sont plus prononcés, on dirait l'une de ces figurines qui hochent la tête sur les tableaux de bord. Gianni entend la place vacante laissée par le banjo de sa mère dans le morceau. Il manque l'élan, le liant entre les trois instruments. Peut-être est-ce ainsi que les choses se produisent. Empoter les tomates, préparer une tourte au lapin, jouer chaque chanson. Gianni finira par ne plus remarquer l'absence de sa mère. Elle n'est pas certaine d'en avoir envie. Claire Fuller, Terre fragile.
Bonsoir et bienvenue dans Pour un flirt avec, le rendez-vous radiophonique en terre connu, celle de l'amour et de ses chants. Si vos oreilles étaient des personnages, elles seraient ici accueillies dans des fauteuils en velours, verre en cristal et arômes rares, lumière tamisée et papier doré.
À peu de choses près, c'est une description fidèle du studio dans lequel nous sommes installés ce soir. Notre invitée n'est ni une vue de l'esprit, ni un bonhomme de papier, mais une femme lettrée. Capucine Delattre, écrivaine et éditrice, C'est sa vie, est avec nous aujourd'hui. Après Les Déviantes en 2020 et Un monde plus sale que moi en 2023, elle a sorti en janvier De son sang aux éditions La Ville brûle, un roman poignant sur le regret maternel.
À mi-parcours, comme chaque mois, nous aurons de la visite dans Pour un flirt avec. La jeune chanteuse néo-soul Ivana LCX viendra interpréter sa sérénade, une chanson d'amour qui a sa préférence. Et Zoé, quelque chose me dit qu'il fera chaud dans ce studio.
Paraît-il. Et enfin, c'est notre rituel. On conclura l'émission par le générique de fin, une capsule audio envoyée par une auditorice avec un souvenir personnel lié à une musique. Ce soir, Elisabeth nous parlera du temps qui passe, de points de bascule et de choses laissées derrière soi. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris. Soyez les bienvenus. Et bonsoir Capucine Delattre.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on est ravis de vous recevoir ce soir en direct. On est parti pour une heure de dîner aux chandelles radiophoniques en votre compagnie. Ça va, est-ce qu'on est aussi belle que sur nos photos Tinder?
Je suis éblouie également par les chandelles tout à fait réelles qui existent dans ce studio.
Oui,
tout
c'est beau, hein. C'est vraiment un bel endroit.
Franchement, c'est très tamisé, très cosy.
Fabuleux.
Alors, dans un instant, on vous promet, on va parler de votre travail littéraire, mais avant, comme chaque mois, on commence par notre petit questionnaire. C'est notre rituel, on en a plusieurs. C'est le premier, donc, pour connaître nos invités en tant qu'amoureuse. On a posé les mêmes questions à tout le monde et comme toujours, vous ne répondez que si vous en avez envie. Vous avez le droit de ne pas répondre, c'est vous qui décidez. On est d'accord?
Fort bien.
Super. Première question, Capucine Delattre, est-ce que vous avez l'habitude de parler d'amour ou est-ce que c'est un sujet plutôt intime? Est-ce que vous y pensez souvent?
Systématiquement, constamment, je ne parle que de ça.
Tous les jours.
C'est une passion personnelle.
Vous parlez des amours que vous vivez ou vous êtes plutôt centré sur écouter les témoignages qui vous viennent? Comment est-ce que ça vient dans la discussion?
Alors ça vient en général assez rapidement dans la discussion, dans la mesure où je suis incapable de prononcer plus de 3 phrases d'affilée sans parler de l'amour que j'ai pour ma femme. Donc ça pose déjà les bases. Et puis non, mais de façon générale, je me suis énormément construite dans ma quête de l'amour, dans mon exploration de l'amour, dans mon vécu de l'amour, dans mes souvenirs de l'amour, mes projections de l'amour. Et ça a toujours été pour moi une façon hyper riche et assez intuitive de créer du lien avec les gens. Pas forcément d'être dans un rapport amoureux avec tout le monde, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est un sujet qui permet vraiment de façon très chouette de créer des liens et des amitiés, ou même juste de la connivence avec des gens qu'on n'est pas forcément amené à recroiser.
J'en profite d'ailleurs pour préciser que quand on parle d'amour dans cette émission et notamment dans ce questionnaire, c'est vraiment sous la définition que vous préférez, que ce soit l'amour romantique, l'amour familial, l'amour amical ou que sais-je. Et justement, Capucine Delattre, quand, deuxième question, et comment avez-vous entendu parler, avez-vous compris l'idée d'amour pour la première fois dans votre vie?
Alors, il y a une réponse blague.
Ah ben on la prend.
Mais j'ai été élevée notamment au collège, dans un collège très 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 catholique. Mmh. Et donc il y avait vraiment la notion d'amour de Dieu quoi, qui était extrêmement présente.
C'est pas la première fois qu'on nous répond,
c'est
qu'on
pas
répond
la première fois, non.
Et je pense que ça a vraiment été la première, enfin j'ai vraiment eu une phase assez mystique entre la 5e et la 3e où vraiment c'était l'amour de Dieu. Mais il y a vraiment eu 2 semaines de ma vie où j'ai pensé devenir bonne sœur et je l'ai annoncé à ma mère dans la voiture pour aller à mon cours de danse et elle était pas très heureuse. Quoi.
Pas très réceptive à cette proposition.
Elle m'a dit ne le dis pas à ton père. donc oui, en vrai, ça a été assez marquant ce truc-là qui a pas mal évolué, mais on n'est pas là pour parler de ça.
Donc l'amour de Dieu d'abord.
Non, mais pas. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a été présenté ouais. comme le truc ultime. Et puis en fait, après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient un peu plus, et notamment l'amour des gens qui a été un gros sujet parce que bah, précisément, c'était difficile et j'aimais énormément les gens et les gens m'aimaient pas trop. Enfin, j'étais vraiment la gamine sans amis. Et il y a eu un peu un déclic dans ma vie où j'ai réussi à m'entourer de gens qui m'aimaient et ça a été hyper fort et bouleversant parce que bah, je m'étais un peu raconté cette histoire du vilain petit canard condamné à ne jamais être aimé par personne. J'ai été émo très jeune.
Regardez-nous entre pépettes qui ont survécu à notre healing journey.
Oui,
on
oui,
est
voilà,
dans ce
c'est
studio.
Beau.
Tellement. Et bah, justement, notre troisième question, c'était quand êtes-vous tombée amoureuse pour la première fois? Mais ça pourrait être quand est-ce qu'on est tombé amoureuse de vous pour la première fois?
Non, alors c'est définitivement moi qui suis tombée amoureuse et ce n'était pas réciproque, hein, je tiens à rétablir les faits. Non, en vrai, c'est une histoire assez, assez jolie, je trouve, parce qu'elle dit beaucoup aussi de mon rapport à l'amour, forcément en tant qu'écrivaine, qui se raconte aussi les histoires en même temps qu'elle les vit. En fait, la première personne dont je suis tombée amoureuse, c'était quelqu'un avec qui j'étais dans une troupe de théâtre, et c'était quelqu'un qui jouait mon fiancé dans la pièce, bien sûr, et mon premier baiser, c'était un baiser de théâtre.
Aïe, aïe, aïe.
Et en fait, on a passé une année entière à jouer le fiancé l'un de l'autre, à se tomber dans les bras. En plus, il mourait pour moi par amour à la fin de la pièce. Non, mais laisse tomber.
C'était quoi la pièce ?
C'était une pièce de Camus.
D'accord.
Et à la fin, voilà, il se sacrifiait pour moi. Et donc, mais vraiment, j'étais obsédée par cet homme pendant un an et demi. Et c'était un amour purement, enfin, fabriqué, quoi. C'était, il était là. Alors aussi, j'étais dans une école de filles et à l'époque, je ne m'imaginais qu'avec un garçon, bien sûr. Et c'était vraiment le seul mec que je connaissais de ma vie. Donc en fait les choix étaient limités et vraiment j'étais dans cette projection, dans ce récit de l'amour mis en scène qui devient sincère, c'est-à-dire que vraiment à un moment donné je l'aimais vraiment beaucoup, mais c'est une construction qui s'est complètement effondrée le jour où il est sorti de ma vie quoi.
Alors ça c'était la première fois que vous êtes tombée amoureuse et la dernière fois et si on peut faire une comparaison entre ces deux moments?
Bah, la dernière fois c'est de ma femme car je tombe amoureuse d'elle chaque jour.
C'était trois phrases on a dit.
Et ça n'a pas grand-chose à voir, ouais. Dans la mesure où c'est un amour qui est très très vécu et très choisi et très, bah, comment dire, très 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 incarné quoi. On n'est pas dans de la projection. C'était une fuite en avant quoi, cet amour-là, alors que avec ma femme, c'est ma femme quoi.
Et alors, on vous pose cette question, même si j'ai un peu l'impression que c'est une question rhétorique. Mais est-ce que vous avez déjà, Capucine de Lattre, écrit une lettre d'amour?
Oh là là, oh oui.
À votre femme notamment.
À ma femme notamment. Non mais justement en fait, j'ai eu une première histoire de couple où j'ai pas pu écrire de lettre d'amour. Enfin à vrai dire j'en avais écrit une et en fait j'ai senti que ça allait être trop si je l'envoyais, que ça serait pas bien reçu.
Trop intense.
Et que ce serait trop intense, que c'était pas, que ce serait pire que pas compris, que ce serait vraiment mal perçu. Et ensuite, j'ai eu une autre histoire d'amour qui était magnifique, qui était trop belle. C'est vraiment c'est une personne que j'aime toujours très, 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 très fort et qui m'a énormément, notamment, permis de comprendre que j'étais une personne aimable et que j'étais pas cassée. Donc, on le remercie. Et notamment, on s'écrivait des lettres d'amour hyper précieuses, hyper belles, à travers les continents. Et j'ai gardé les siennes. Et je sais qu'il a gardé les miennes. Et vraiment, je trouve qu'on a eu de la chance de s'offrir cette histoire-là très, très, très romanesque et romantique avec ces lettres.
Capucine de Lattre, dans votre dernier roman De son sang, vous racontez l'histoire de Sabine, une mère qui n'aime pas son fils. De quoi susciter l'effroi autour d'elle, ou à minima au moins une question, Sabine est-elle triste ou méchante ?
J'arrive à la moitié du pont.
Je marche à toi.
Les bras en croix à reculons. Je compte jusqu'à trois. Les âmes.
Es-tu triste ou méchante? Dans un papier de cigarette dans la buée d'une fenêtre triste méchante. Es-tu triste ou méchante? Triste méchante.
Pour un flirt avec sur Radio Campus Paris.
Tu sais, toi aussi tu peux me poser des questions parfois, si t'as envie. Ça va. T'as pas envie de savoir des choses en plus ? Non, ça va. Parce que je pourrais te raconter ma vie, tu sais, si tu voulais. Je dis pas qu'elle est... Enfin, mais je pourrais. D'accord. Tu penses quoi de ma vie ? Je sais pas. Est-ce que, finalement, tu la connais pas si bien que ça ? Je veux dire, ok, le week-end avec moi, c'est pas toujours dingue, mais tu sais, si ça se trouve, je suis quelqu'un de prodigieux le reste du temps et t'es juste pas là pour le voir. C'est quoi, prodigieux ? C'est quelqu'un qui fait de grandes choses. D'accord. Alors, t'as pas envie de me poser de questions ? Non, ça va.
C'est l'un des dialogues qui viennent ponctuer De son sang, votre dernier roman Capucine de Lattre, paru en début d'année aux éditions La Ville Brûle. De son sang, c'est l'histoire de Sabine, une mère bientôt quinquagénaire qui n'aime pas son fils de 6 ans, Théo, et qui décide que c'est pas un tabou, elle assume. Es-tu triste ou méchante ? C'est ce que demande Clopelgag sur la chanson qu'on vient d'entendre. Si la question s'appliquait à Sabine, la question serait sans doute un peu ni l'un ni l'autre.
Bah, c'est-à-dire qu'elle est tellement l'un qu'elle devient l'autre. C'est-à-dire qu'en fait... À force d'être triste, parce qu'effectivement, vous le disiez, elle n'aime pas son fils, elle l'assume, pour autant, elle n'en fait certainement pas une fierté, et résolument pas une joie non plus. Elle adorerait aimer son fils, parce que ça lui rendrait la vie vachement plus simple, et parce qu'elle-même se rend bien compte que ça vaudrait mieux pour tout le monde, et qu'à la base, elle voulait l'aimer, quoi, et c'est juste pas venu. Donc elle en conçoit une grande tristesse, tristesse qui est renforcée par l'incompréhension ultime de son entourage et le refus de l'écouter. De son entourage, parce qu'en fait, c'est pas juste qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils lui refusent sa vérité, qui est que ça n'est toujours pas venu et ça ne viendra probablement jamais à ce stade. Et cette tristesse devient amertume. Et je pense en fait qu'au bout d'un certain temps, quand on est écouté, cru et respecté, donc de personne, on devient méchant, quoi.
Et c'est peut-être à partir de là que tout le monde commence à la voir comme un monstre, sauf peut-être elle-même. Est-ce que vous l'aimez bien, vous, Sabine ? On s'est demandé.
Bah, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle partage avec moi un amour de la punchline. Elle me...
Bah, en fait, beaucoup de répondants.
ce sont peut-être des choses qui me plaisent. mais c'est vrai qu'en fait... moi aussi, bah, c'est particulier parce que bah, forcément, j'ai passé 5 ans en colloque mental avec elle dans ma tête. Mmh. Donc je pense qu'il y a un moment donné où on s'est bien fait l'une à l'autre.
Vous comprenez.
On se comprend. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a aussi un peu un truc méta où j'ai un peu le sentiment que je raconte son histoire parce que personne d'autre ne le fait. Enfin, il y a un peu un truc où je me sens investie de porter... sa vérité, et en fait je ne cherche pas forcément à ce que le lecteur l'aime, et d'ailleurs j'ai plein de lecteurs et lectrices qui m'ont dit qu'ils l'aimaient pas forcément. En revanche, je cherche à faire en sorte qu'elle soit comprise, qu'en fait à la fin du livre, quelque part, que tu aimes ou pas Sabine, je m'en fiche un peu, enfin, et elle-même s'en fiche d'ailleurs, elle cherche pas à être aimée, et c'est ce qu'elle dit souvent, je m'en fiche que vous m'aimiez, je veux juste que vous m'écoutiez. Et c'est même totalement ça l'objectif.
Nous, on s'est quand même posé la question, ces termes avec Zoé, ça, on n'était pas du tout d'accord. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé Sabine, un peu pour les mêmes raisons, aussi pour effectivement cet amour de la punchline dont vous parlez. Toi, Zoé, t'étais plutôt pas d'accord.
C'est pas que j'étais pas d'accord, c'est que j'ai eu du mal à l'aimer. Et je me suis demandé pourquoi. Enfin, je me suis dit, ce personnage, je le trouvais un peu cynique. Un peu comme des personnages de Kundera. Je sais pas si la comparaison se tient, mais où...
Ouais, en même temps, elle est pas aimable et elle cherche pas à se le rendre. Enfin, elle en est à un stade de sa vie où en fait elle a juste envie d'être perçue pour ce qu'elle est. Et en fait, si ça te va pas, tu t'en vas. De toute façon, elle est déjà pas mal seule, donc elle s'en fiche un peu, quoi. Et moi, justement, je pense que c'est ce côté-là d'elle que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'aimerais pas forcément avoir pour ami, mais en revanche, j'ai une forme d'estime qui est facilitée parce que bah, je la connais pas dans la vraie vie, elle est quand même fictive, mais pour justement son refus de se compromettre et son intransigeance, qui encore une fois, voilà, je pense, n'en fait pas quelqu'un de très sympathique à côtoyer, mais elle porte quelque chose que je trouve assez remarquable, pas forcément dans le sens admirable, mais remarquable dans le sens bah, ça se remarque.
Bah oui, non mais carrément, enfin les personnages sont pas forcément là pour nous plaire, et moi je me suis dit bah si Sabine j'ai du mal à l'aimer, cette anti-héroïne, c'est aussi parce que je pense qu'elle me renvoie à plein de choses, à des contradictions, à moi-même ma construction de ce que je pense être une mère, et c'est clair que du coup bah ça questionne. Et on s'est demandé justement, enfin, comment est-ce que vous avez de quoi en fait il est né, ce personnage, vous personnellement, comment d'où il est sorti, en fait, vous semblez partager quand même peu de choses. Enfin, à part cet amour de la punchline,
non,
avec
Sabine.
Non,
on partage pas grand-chose, en effet.
Et
contrairement à elle, je ne suis pas ménopausée.
Par exemple.
Vous n'avez pas d'enfant.
C'est surtout ça, je n'ai pas d'enfant. Mais en fait, Sabine est vraiment venue d'un désir très théorique, vraiment d'une expérience de pensée, où justement, j'avais envie de créer ce personnage que tu n'allais pas forcément aimer, mais qui, en tout cas, allait te poser des questions et aller te gratter. Et en l'occurrence, bon bah effectivement, je n'ai pas d'enfant, mais la maternité, c'est un sujet qui me travaille et qui me questionne énormément, parce que j'ai moi-même mon propre rapport à la maternité qui n'est pas hyper classique, dans le sens où j'adore les enfants et j'en veux pas. Et ça, c'est un truc qui, en fait... Enfin, là, dit comme ça, on se dit, bon bah ok, mais en vrai de vrai, c'est pas un schéma classique. On se dit, bah si t'aimes les enfants, t'en auras, et si tu fais pas d'enfants, c'est que t'en aimes pas. Et donc, bah, même dans mon petit parcours personnel, à mon humble mesure, ça a été aussi quelque chose à construire et comprendre. Et puis, je pense aussi qu'il y a le fait que j'ai vu ma mère devenir mère quand j'avais 12 ans. J'ai une toute petite sœur, et j'ai vraiment, enfin, ça m'a vraiment matrixée, quoi. J'ai vraiment vu toutes les conséquences, tout le mélange d'émotions que c'était, la grande joie, l'extrême fatigue, la frustration, et parfois, ouais, des émotions. Alors là, je parle plus de ma mère, mais de façon générale, toutes les émotions extrêmement contrastées que ça peut susciter. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours exploré, et ça m'a toujours beaucoup intéressée, donc j'ai beaucoup écouté, lu, etc. Et je me suis dit que potentiellement, précisément, en tant que personne qui n'a pas d'enfant et qui n'en aura pas, peut-être qu'il y a des choses que je peux écrire que ne peut pas écrire quelqu'un qui a des enfants.
On va écouter, Capucine Delattre, la voix d'une autre mère que d'aucuns auraient voulu aussi considérer comme monstrueuse. Écoutez.
Dans tout ce que je jette, il y a une chose que je n'ai pas jetée, mais qui a rompu malgré moi, enfin en tout cas qui a scié... C'est l'enfant, oui, ça. Et dans un cadre particulier, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée j'ai fait l'objet d'un procès. Et finalement, on a fait mon procès parce que j'avais rompu avec le travail et avec la famille, avec ces toutes petites choses. Et encore une fois, en vrai, on parle de pas grand-chose, hein. J'ai pas traversé l'Atlantique à la nage, je me suis pas battue avec des requins avec un canif. Non mais c'est vrai, on parle pas de grand-chose.
Il fait un dessin sur son carnet. Il le signe de ses initiales. Il ajoute un D. Il dit « c'est normal, parce que ». Il laisse sa phrase en suspens. Je mets ma main sur son poignet, je me baisse pour que mon regard soit en dessous du sien. Je dis « ça va aller, tu sais, ça va aller ». Il dit « oui, je sais ». On parle d'autre chose, on est fatigué tout à coup. On a hâte que ça finisse. On est épuisé de parler comme on se parle, de jouer ces personnages qu'on est obligé de jouer à l'espace rencontre. On n'en peut plus. Dans une semaine, il a 10 ans.
La voix de la romancière Constance Debré, suivie d'un extrait de son livre Love Me Tender, paru en 2020. Dans ce roman, en grande partie autobiographique, elle raconte comment elle a perdu la garde de son enfant après avoir quitté son compagnon et envoyé balader à peu près toute sa vie. Petit à petit, elle se détache de son fils autant que celui-ci s'éloigne d'elle. Elle dit « Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours, pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer ?» Ça donne des passages comme celui que Zoé vient de lire qui font penser au moment dialogué de votre roman Capucine de Lattre. La relation entre Sabine et sa mère, c'est une relation pleine de silence en fait.
Entre Sabine et son fils.
Entre Sabine et son fils. Je lis mes notes, moi.
Non, mais parce que c'est intéressant parce que justement, il y avait des premières versions du roman où la mère de Sabine était ultra présente. Et où en fait, j'étais là à tisser tout un truc psychologisant à la con de oui, mais en fait, son rapport à sa mère, c'est pour ça qu'elle est. Et justement, en fait, je me suis rendu compte, avec l'aide de mes éditrices qui sont beaucoup plus perspicaces que moi, qu'il fallait virer la mère parce que tout le principe du roman. C'est que justement ce soit gratuit et non expliqué, qu'en fait Sabine soit normale par ailleurs, que tous les autres aspects de sa vie soient normaux.
Et pas que tout s'explique par un trauma originel.
Non mais c'est ça en fait. C'est que précisément, donc elle n'est pas malade, elle n'est pas perverse, elle n'est pas malveillante, elle n'est pas non plus traumatisée. Enfin, l'idée c'est vraiment effectivement ce postulat de dire en fait l'amour d'une mère pour son enfant, c'est quelque chose qu'on a choisi en tant que société de considérer comme obligatoire et naturel et systématique et évident, mais en vrai de vrai, si on fait une expérience de pensée un peu dérangeante, rationnellement, il n'y a aucune raison qui va nous faire préférer un enfant au motif qu'il l'ait fait avec notre jeune homme par rapport à un autre enfant. C'est quelque chose, encore une fois, qu'on a construit et qui fonctionne très bien dans la plupart des cas. Il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais en soi. Mais voilà. Et donc ce personnage-là permet de poser cette expérience de pensée, cette hypothèse-là. Et en fait, si tu commences à dire mais c'est son rapport à sa mère qui est cassé, bah, tu biaises complètement le truc. Ça devient l'histoire d'une femme qui a un rapport malade à sa mère et du coup, elle n'aime pas son fils. Et ce n'était pas du tout ça que je voulais raconter. Bref, voilà, pardon. J'ai fait de...
Et du coup, ce qui me relance sur cette question du silence qui est très présent dans le livre de Constance Debré, Love Me Tender, mais qui est aussi très présent dans le livre. Je trouvais qu'il y avait un écho assez fort entre vos passages dialogués et ces nombreux passages aussi dans le livre de Constance Debré.
Bah en fait, ce que je voulais raconter aussi, c'est-à-dire que bah forcément, quand on résume le livre, on dit « Sabine n'aime pas son fils », mais cette expression, en fait, elle est un peu dérangeante parce qu'on a l'impression que Sabine déteste son fils, mais Sabine ne déteste pas du tout son fils, elle lui souhaite le meilleur.
Elle est plutôt indifférente.
C'est juste qu'en fait, effectivement, elle n'a rien à lui dire. Elle le trouve pas spécialement drôle, pas spécialement intéressant, pas spécialement cohérent. Elle le regarde et elle se dit « mais je ne lui trouve rien de plus aimable tous les autres enfants, et à vrai dire, j'ai déjà croisé des enfants plus aimables. Et donc, en fait, elle essaye de s'intéresser, mais il n'y a rien qui vient. Et c'est vrai que y a un peu ce truc où, autant c'est tout à fait accepté qu'en termes de relations amicales ou amoureuses, il y a des gens avec qui ça ne matche pas. Autant dans les relations filiales, résolument pas. Ça matche forcément avec ton enfant. Mais en fait, quand on est un peu honnête et qu'on creuse un peu sa mémoire, je pense qu'on a tous des exemples plus ou moins tabous, plus ou moins cachés, plus ou moins enfouis de familles où les parents n'aiment pas trop leurs enfants, ou pas tout le temps, ou pas souvent, ou pas beaucoup, où ils ont mis du temps à les aimer. Et on sait que ça existe, c'est juste qu'on s'interdit d'en parler, qu'on fait semblant que ça n'existe pas, on fait semblant que c'est un problème qui va se résoudre. Et je pense que ce faisant, on fait souffrir énormément de gens, et notamment énormément d'enfants. Et je pense que c'est pas très bien. Voilà, c'est une prise de position engagée de ma part.
Dans ce livre, Sabine, elle rencontre une autre forme d'amour avec un autre enfant qui est du coup Samuel, l'enfant de sa collègue et nouvellement amie Lydia. Et justement, sur cette forme d'identification, c'est qu'à un moment, elle regarde Samuel, elle dit « Mais en fait, finalement, on se ressemble un peu. » Parce qu'il y a quelqu'un dans la rue qui lui dit « Ah, ça, il vous ressemble tellement », en pensant que c'est son fils. Elle dit « Mais c'est vrai qu'on se ressemble. Ça se trouve, il a été changé à la maternité. » Enfin, elle commence un peu à partir dans un... Ça dure pas très longtemps, un peu dans un délire. Elle dit « Mais en fait... » Et c'est vrai qu'on retrouve en fait toute cette... Enfin, malgré elle... Sabine, elle est aussi...
Elle est imprégnée aussi de ce récit-là. Mmh. Et en fait, effectivement, comme vous dites, elle y retourne d'elle-même. Elle n'est pas asociale, quoi. Elle a grandi dans la même société que nous et il lui a fallu 6 ans pour arriver à dire ce qu'elle dit sur sa relation avec son fils. Et lorsqu'elle est confrontée à cet amour anormal pour Samuel, qui par ailleurs, en tout cas à la base, n'est pas un amour malsain. On est vraiment, elle connaît tout à fait sa place par rapport à lui. C'est juste qu'elle le voit et elle aime trop passer du temps avec lui. Ils s'entendent grave bien, ils ont plein de choses à se dire. Et en fait, elle se rend très vite aussi compte qu'elle ne va pas avoir la place dans cette société pour aimer cet enfant comme elle voudrait l'aimer, pour avoir un rôle dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle bricole à peu près une espèce de relation de babysitter, mais enfin, c'est foireux, ça va pas durer. Elle le sait très bien. Et en fait, oui, bien sûr que très vite, elle va commencer à se dire, mais peut-être que, en fait, c'est mon fils biologique et il a été changé à la naissance. Alors, il a 3 ans de plus que Théo, donc c'est mal barré. Théo, c'est son fils à elle. Mais parce que, en fait, c'est aussi un confort de pensée et parce qu'au fond, elle en peut plus d'être bizarre et d'être le monstre.
Elle se range dans le mythe, quoi.
Ouais, elle se range dans le mythe. Mais après, ça dure pas longtemps parce qu'encore une fois, elle a du discernement, elle se rend bien compte, elle sort tout de suite du truc, elle fait, mais non, t'es débile.
Il est bien connu que l'on se sent plus excité et attiré par une autre personne dans des contextes susceptibles de susciter la nervosité, l'anxiété ou la peur. Voir les études sur l'incroyable efficacité des premiers rendez-vous amoureux dans les parcs d'attractions, devant les films d'horreur ou les thrillers, ou en discutant avec l'objet potentiel de son affection au milieu d'une passerelle bancale suspendue à plus de 100 mètres au-dessus d'un ravin rocheux par jour de grand vent. Les sujets se trouvant sur ce pont minuscule aux oscillations impressionnantes, c'était tout près de Vancouver, avaient fait l'expérience de toutes les réactions physiques liées aux affects élevés, et leur cerveau avait eu 2 façons de l'expliquer. Soit c'était le pont, auquel cas il s'agissait de peur, soit c'était cette autre personne qui se trouvait là avec eux, auquel cas c'était de l'attirance, voire de l'amour. Et cette attirance étant plus acceptable pour l'ego que la peur, la plupart préféraient cette version du récit.
Un extrait du dernier roman de l'auteur américain Nathan Hill, Bien-être, qui raconte sur plusieurs années l'histoire d'amour vécue par Elizabeth et Jack. Dans ce roman, Elizabeth travaille au sein d'une clinique qui fabrique des placebos sans préciser à ses patients qu'il n'y a aucun principe actif dans ses remèdes. Elle va même concevoir un produit qu'elle va présenter à une amie, à elle, comme un filtre d'amour. Et ça va marcher. Son amie se réjouit de voir que, depuis qu'elle a avalé le contenu de la fiole, la flamme s'est comme ravivée entre elle et son mari. Finalement, selon Elisabeth, ce qui compte, ce n'est pas tant le sentiment amoureux, c'est l'histoire qu'on se raconte.
Voilà, les mythes qu'on se raconte, on y revient. Et le moins qu'on puisse dire, Capucine Delattre, c'est que dans Un monde plus sale que moi, votre roman paru en 2023 chez La Ville Brûle, votre héroïne Elsa, elle se raconte une histoire, elle dit « Aujourd'hui, c'est nos 5 mois, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie », j'annonce à Estelle. « Je confonds bonheur et espoir ».
Oui, oui, bah complètement. C'est-à-dire que encore une fois, je peux partir dans des trucs très méta où c'est l'histoire d'une fille qui se raconte des histoires. C'est l'histoire de comment on se raconte tous des histoires, l'histoire dans laquelle on est élevé et qui nous pousse derrière à recréer des histoires d'amour. C'est effectivement tout ça, une envie en fait aussi de déconstruire un peu cette image très très euphémisée qu'on a de la première histoire d'amour, qu'on se représente souvent comme la plus belle, la plus vraie, celle dont on ne se remet jamais vraiment, celle après laquelle rien n'est plus jamais aussi sincère, etc. Et moi, je pense plutôt que c'est une histoire où on n'y connaît rien à l'amour et où on se trompe très souvent sur ce que c'est de l'amour. Mmh. Et c'est bien normal dans la mesure où c'est la première et qu'en réalité, la première histoire d'amour en est rarement une. Mmh.
À vous lire, en tout cas, on a l'impression que l'amour, c'est en fait surtout ce qu'on en raconte. Donc, le mythe de l'amour maternel ou familial, le mythe de l'amour romantique. Qu'est-ce qui va sauver l'amour, en fait ?
Précisément, l'amour, c'est quand on n'a plus besoin de se le raconter. C'est peut-être plutôt ça. Que lorsque l'histoire et le récit et la narration et la rationalisation via un peu en palliatif, c'est que précisément, il n'y a peut-être pas... Enfin, c'est un peu c'est ce truc très cliché, mais de quand t'es heureux en couple, t'as rien à raconter. Quoi. C'est un peu ça où, tu sais, quand tu parles d'amour avec tes amis, en vrai, les gens qui parlent le plus et qui font le plus rire, c'est ceux qui racontent les histoires d'ex foireux et de plans d'un soir qui ont mal tourné et de grandes histoires toxiques. Voilà. Et puis en fait, moi, je vais être juste là en mode avec ma famille, on a regardé une série, c'était trop bien. on s'en fout, tu vois.
Mais d'ailleurs, votre héroïne, Elsa, dans Un monde plus sale que moi, à un moment, elle brille en société justement parce qu'elle a toute une histoire, elle met en récit le récit, ça prend un petit peu...
C'est ça, absolument. Et ça,
peut-être qu'on raconte un peu plus précisément de quoi il s'agit parce que c'est pas très clair ce que je dis. Mais voilà, elle brille un peu en soirée en racontant toutes les pires histoires de ce qui lui est arrivé avec son ex, en grossissant peut-être un peu le trait, mais parce que ça amuse.
En ridiculisant, voilà. en elle-même se ridiculisant aussi. Mmh. Et voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes connu après la rupture où d'un coup, en fait, on sort les casseroles du placard et où ça devient le grand cirque de la honte et de la dérision. On devient un peu la star de la soirée et c'est très paradoxal parce qu'on pourrait se dire c'est un peu dégradant de raconter qu'on est sorti avec un ou une tocarde, mais non, c'est ça. Ça devient en mode regardez comme je suis humble, comme j'ai un regard lucide que je pose sur moi. Puis ça fait rire parce que ça rassure de se dire qu'on n'est pas le seul, etc. Mais je pense je le pense vraiment que c'est quelque chose d'assez délétère. Que en réalité les choses graves, il faut pas en rire. Je suis un peu devenue cette meuf qui dit non, ça je veux pas en rire. C'est vrai qu'il y a des choses où j'en ai beaucoup ri pendant longtemps et je pense que ça m'a fait perdre du temps. Et il y a des choses où en fait vraiment ça ne me fait pas rire du tout et je ne veux plus jamais en rire, même si c'est très drôle par certains aspects. Peut-être que j'en rirai dans 20-30 ans, mais là vraiment j'ai plus du tout envie d'en rigoler. Je pense qu'il y a des récits qui méritent mieux que les punchlines pour en revenir à ce qu'on disait plus tôt.
Et justement, dans Un monde plus sale que moi, le livre parle aussi justement de MeToo et de tout ce que ça a fait à toute une génération dans leur premier rapport affectif et sexuel. Et il y a une formule qui nous a interpellé le personnage Elsa dit « Ah non, c'est vous qui écrivez. » Enfin, il me semble que c'est du coup, c'est pas Elsa qui le dit, c'est la narration.
Ouais, voilà.
Certaines générations ont engendré des révolutions, la nôtre a livré des témoignages. Et c'est une espèce de mise à distance assez radicale de MeToo. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
Que MeToo, ça a été une immense déception, globalement. C'est-à-dire qu'en fait... quand MeToo a eu lieu, moi j'avais 17 ans et je me disais mais waouh, ça y est, le féminisme a gagné, on est sauvés, tout va bien se passer pour nous, nous sommes la génération élue, les ports ont été balancés, le féminisme a œuvré, c'est bon quoi, 2017, la liberté, et après je me suis pris un mur dans la gueule quoi. Et qu'on entend énormément parler de l'ère post-MeToo, etc. Moi je demande vraiment à voir l'ère post-MeToo, enfin je suis vraiment pas convaincue que ça existe et que en fait MeToo a été traité comme un événement médiatique qui s'est achevé et après lequel apparemment des choses auraient changé. Mais en réalité, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, et a fortiori quand derrière j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai écrit dessus, j'ai fait des recherches, etc., c'est que MeToo, ça aurait dû en fait nous faire dire le mot systémique. Et en fait, on a réussi d'une façon que j'allais dire que je ne m'explique pas, mais que je ne m'explique que trop bien, à en faire une espèce d'agglomérat de témoignages individuels, comme plein de petits points qu'on n'a pas reliés. C'est-à-dire qu'on était vraiment là en mode « Waouh, il y a 25 320 000 récurrences du hashtag MeToo, tous ces témoignages de femmes qui racontent avoir vécu ces choses-là. » Et que, hormis dans des cercles militants, et des bulles qui sont très riches et très intéressantes, etc., mais qui en réalité n'ont pas essaimé dans la société, dans l'opinion publique, on n'a pas relié ces points, quoi. Et pour moi, ça, c'est une grande frustration. Et c'est pour ça, en fait, je ne dénigre pas du tout le témoignage par cette phrase. Je pense que le témoignage est extrêmement important et que par le témoignage peut commencer la révolution.
Mais c'est ce qu'on en a fait.
Uniquement, voilà. Et uniquement si, en fait, on arrive à se rendre compte que les témoignages, à eux tous, racontent quelque chose de systématique et d'important et que ce n'est pas juste des coïncidences que tous ces témoignages soient les mêmes, quoi.
Alors, Capucine Delattre, à cette heure-ci, dans Pour un flirt avec, on passe à un autre chapitre. Donc, ça nous demande de couper court à cette discussion-là qu'on pourra peut-être reprendre après. On verra, parce qu'il y a une tierce personne qui nous a rejoint dans le studio. Il s'agit d'une jeune autrice, compositrice, interprète, Ivana LCX, à qui on a demandé de préparer une reprise de la chanson d'amour de son choix. Ça s'appelle La Sérénade et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
Me cache pas derrière ça. Oublie pas ce que tu m'as dit. Tu voulais me passer l'anneau, bébé penthouse, putain de bolide. C'est comme ça que tu nous vois. T'as chamboulé mes envies, t'es pas trop concentré. Je vois des sublis derrière tes stories. Oh non, bébé, je porterai pas ton nom. Si tu fuis quand ça devient chaud, sac Chanel pour dire pardon. Ouh, oh non, bébé, porterai pas ton nom. Si tu fuis quand ça devient chaud, sac Chanel pour dire pardon. Toi et moi on devait briser le code. T'as préféré me briser le cœur. Tu m'as laissé abîmer, boy. Tu m'as laissé abîmer, boy. Ça devient trop méchant. J'ai le cardio, mais bon. Les problèmes que tu déclenches, j'ai le seum quand c'est trop méchant. I got you, Fendi love, I got you. I got you, business class, I got you. I got you, Birkin bag, I got you. I got you, Onisia, I got you. Trop de bitch, trop de new dans le phone. Elle veut me faire, elle m'a dit, mets le code. Dans ma tête, moi je pense qu'à m'en sortir. Elle regarde que mon passé, bébé, s'il te plaît, ne me pousse pas vers la sortie. Dans le fond, je suis qu'un homme. Je sais pas dire I love you. 600 chevaux puissants finir à chemin à moitié. Mes sentiments sont trop précis. Fais pas couler le navire. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Y'a que toi qui calme ma folie. Ah, elle me dit Stani, Stani. Fais balai qu'à tes homies. Toi et moi, on devait briser le code. T'as préféré me briser le cœur. Tu m'as laissé abîmer, boy. Tu m'as laissé abîmer, boy. Ça devient trop méchant. J'ai le cardio, mais bon. Les problèmes que tu déclenches, j'ai le seum quand c'est trop méchant. Toi et moi, on devait briser le code. T'as préféré me briser le cœur. Tu m'as laissé abîmer, boy. Tu m'as laissé abîmer, boy. Ça devient trop méchant. J'ai le cardio, mais bon. Les problèmes que tu déclenches, le seum quand c'est trop méchant. I got you, Fendi love, I got you. I got you, Fendi love, I got you.
Et bonsoir Ivana LCX, merci beaucoup pour cette reprise. On n'applaudit pas trop fort parce qu'on n'a pas envie de faire saturer les micros, mais merci beaucoup. Et ça y est, merci. Vous avez le temps de vous installer dans le studio après avoir quitté votre piano à l'autre bout de la pièce. Et donc on vient d'entendre I Got You de Ronicia en featuring avec Niska.
Tout à fait.
Bah bonjour déjà.
Bah bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Voilà, c'est ma première fois à la radio.
Eh bien, félicitations. Trop content d'avoir été les premiers.
Mais oui, vraiment. Quel honneur.
Bah, merci. Honneur partagé.
Et alors, pourquoi le choix de cette musique? On a envie de tout savoir.
I Got You, c'est un morceau de... Je ne sais pas si vous connaissez Ronisia.
Non. Un petit personnellement, non.
C'est un peu une meuf qui est dans la hype du R&B francophone en ce moment. Et en fait, moi, j'ai un peu grandi avec des chansons de love de R&B. Mm. Donc, je sais pas si ça vous parle, Zao. Si, c'est si, chelou.
C'est ça, d'accord.
Alicia Keys, Emily Sandé, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est des chansons que j'écoute avec beaucoup de douceur parce que y a plein de clichés dans ces chansons qui, déjà, me font trop rire. Donc, la meuf se fait tromper et du coup, le mec lui offre un sac Chanel pour... pour se faire pardonner.
C'est l'histoire de cette chanson.
Oui, on vient d'entendre. Que des trucs comme ça. Et du coup, dans ce morceau, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui me font marrer. Et il y a aussi en fait, des punchlines que je trouve qui me touchent beaucoup et que je trouve très juste. À un moment donné, Niska a dit « J'ai le cardio, mais bon... » Et je trouve que c'est vrai qu'il faut avoir du cardio, notamment pour vivre des histoires d'amour. Enfin, voilà. Donc, c'est genre... Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
Alors, Ivanel, CX, vous avez tout un projet aussi avec un EP qui va bientôt sortir. On va en reparler dans un instant. Dans la première partie de cette émission, on a un petit peu parlé de nos rapports à nos mamans et au silence qu'il pouvait y avoir dans nos échanges avec elles. J'ai cru comprendre que c'était une thématique sur laquelle vous écriviez, notamment avec une super chanson qui s'appelle « Cœur de pierre ».
C'est ça. Alors ça, c'est un peu les coulisses, hein, parce que personne n'est au courant que c'est une chanson qui parle de ma mère. Tout le monde pense que c'est une chanson qui parle de rupture amoureuse. Mais oui, du coup, c'est en fait la vraie histoire derrière tout ça. Moi, j'écris rarement par rapport aux relations amoureuses. Mais en l'occurrence, dans cette chanson, oui, je parle d'un moment où j'ai coupé les ponts avec ma mère. Et c'est fini maintenant. Mais pour le coup, moi, c'était un peu l'inverse. Je pense qu'il y avait trop d'amour et du coup, c'était aussi difficile à gérer, quoi. Voilà.
Alors, vous écrivez pas beaucoup sur les relations, sur les ruptures amoureuses. Vous écrivez sur quoi d'habitude? C'est quoi vos sujets d'inspiration pour écrire vos paroles?
Sur l'amour en général, mais en fait, beaucoup de métaphores. Typiquement, là, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Année-Lumière, mm-hmm. qui est en fait que j'ai écrit. Donc, c'est une rupture amoureuse, mais en fait, je parle de Rome, qui est une ville où j'ai vécu. Et c'était un peu la nostalgie de cette ville. Que j'ai transformé, en tout cas dans la chanson, l'impression que c'est un être humain, mais c'est plus la ville qui me manquait et la relation avec cette ville, donc voilà.
C'est marrant, ça fait deux fois que vous dites, on a l'impression que je parle d'une rupture, je parle de quelqu'un, c'est assez éloquent, j'ai l'impression aussi de cette envie de plaquer à chaque fois sur des chansons.
Ouais, c'est ça, c'est les retours des gens, après moi ça me... Moi de toute façon, à partir du moment où je sors une chanson, tout le monde l'interprète et ça touche chacun et chacune comme... Enfin voilà, de manière tout à fait libre. Du coup, ça me va aussi, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Ivanel CX. Ouais. Votre EP s'appelle Le Géant d'Or. Il sortira vendredi prochain et vous serez en concert à la Péniche Anaco le 14 mai.
Tout à fait.
J'ai tout dit. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Radio Campus Paris, à la page de Pour un flirt avec et dans la description de cet épisode si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. À bientôt.
Suite et fin avec notre invitée, l'autrice et éditrice Capucine Delattre. On a pris le temps tout à l'heure de parler des formes que prend l'amour dans votre travail littéraire. On va maintenant aller le chercher
dans
vos références artistiques. Je me suis embrouillée avec mes feuilles. C'est le moment de votre tata panthéon amoureux. Donc, je rappelle le principe, on vous a demandé de nous envoyer 3 suggestions d'œuvres, 3 objets qui composeraient ce panthéon amoureux. Une expression que vous étiez libre d'interpréter à votre guise. Et on commence avec le film Il était temps ou About Time dans sa version originale, sortie en 2013 et réalisée par le roi des rom-coms, Richard Curtis, à qui on doit aussi Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, 4 mariages et un enterrement. Dans ce film, donc, Il était temps, Tim, 21 ans, apprend qu'il peut voyager dans le temps, comme tous les hommes de sa famille, mais qu'il ne peut employer ce pouvoir que pour modifier des événements passés de sa propre vie. Et Tim va essentiellement utiliser ce pouvoir pour changer le cours de son histoire d'amour avec Mary.
Where is...
Oh, she and Jay just... She took him to...
right. Oh, well, I guess I better...
Would it be very wrong if I asked you for your number?
No.
Just in case I ever, you know, had to call you about...
Stuff. Mm. Okay.
Alors, il était temps, About Time, dont j'ai écouté un petit extrait. C'est un peu un grand classique des comédies romantiques des années 2010, Capucine Delattre. Pourquoi ce choix? On veut tout savoir.
Bien sûr. Eh bien, parce que je l'ai vu à plein d'âges différents de ma vie et je l'ai vu de façon différente. C'est-à-dire que quand je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir 13 ans. Je l'ai vraiment vu au moment de sa sortie. Et en fait, je l'ai vu premier degré, quoi. Enfin, j'étais là, trop bien, il utilise son pouvoir magique pour que son histoire d'amour fonctionne. Et j'étais là, purée, trop bien. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je l'ai revu. Et puis, en fait, ce n'est pas un spoil, c'est une analyse pseudo-prétentieuse. Mais tout le point du film, c'est que déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle d'amour romantique, mais pas que. En réalité, une des plus grandes histoires d'amour du film, c'est aussi la relation entre Tim et son père. Personnellement, je pleure comme un bébé pendant une demi-heure à chaque fois après avoir vu ce film, précisément à cause de cette relation. Et puis aussi et surtout, en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le pouvoir... C'est pas le pouvoir qui compte et qu'en réalité tous les deux ils s'aiment et que le pouvoir c'est un artifice et ça renvoie un peu à tout ce qu'on se disait vis-à-vis de la façon dont on se raconte les histoires d'amour, dont on se force à les faire arriver, dont on les projette, et en réalité on voit que tous les deux ils sont jamais aussi heureux que lorsque les artifices s'en vont, que lorsqu'ils renoncent à son pouvoir, et que ce qui marchait entre eux c'était pas le pouvoir, c'était juste eux deux et l'amour qu'ils se portaient. Et pour vous raconter aussi une anecdote très mignonne et très niaise, quand j'ai rencontré ma femme, donc vraiment, je crois que ça va être la sixième fois que je la mentionne au cours de cette émission, voilà. J'ai pas menti. J'ai su tout de suite que c'était elle. Su tout de suite que c'était elle, que je voulais marier avec elle, que je voulais faire ma vie avec elle. Et en fait, on a décidé toutes les deux, parce qu'il se trouve qu'on avait toutes les deux vu ce film et qu'on l'adorait toutes les deux, on a décidé que le premier film qu'on allait regarder ensemble, ce serait lui, parce qu'on savait déjà qu'on serait l'amour de la vie l'une de l'autre et qu'on voulait marquer le coup en regardant ce film-là toutes les deux ensemble. Donc c'est notre premier date film.
C'est très inspiré par les rom-coms, ça, cette idée de « c'est sûr, t'es toi la femme de ma vie ».
En fait, je pense que justement, je m'étais suffisamment bernée et trompée et j'avais suffisamment vu des évidences là où en fait, il n'y avait que des constructions que quand j'ai eu ma vraie évidence sous les yeux, j'ai su.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send.
Ce second objet, c'est l'album Pure Heroine, le premier de la déesse des Indie Kids, l'auteur-compositrice Lorde, sorti en 2013. Décidément, c'était vraiment la grande année.
Je viens de me rendre
vous
compte qu'en fait, les trois que je vous ai cités, je les ai découverts les trois à l'âge de 13 ans.
C'est quand même assez intéressant, ça. est-ce que c'est à 13 ans qu'on commence à développer son intérêt, peut-être pour...
Là, en l'occurrence, la raison pour laquelle j'ai choisi cet album de Lorde, donc il faut savoir que je suis vraiment zinzin de Lorde.
Okay.
J'ai des paroles de ses chansons tatouées sur les bras, comme vous ne pouvez pas le voir. Et en fait, je vous ai donné le titre de cet album parce que c'est la première fois que j'ai vraiment... que je suis tombée amoureuse d'une œuvre d'art, quoi. C'est-à-dire que globalement, j'ai pas du tout une enfance et un début d'adolescence très musicaux. Enfin, j'étais pas du tout... La musique faisait pas trop partie de mon panthéon, justement. Et c'est vraiment par pur hasard. Mes cousines ont offert cet album à ma mère pour Noël 2013. Et en fait, on s'est retrouvés à l'écouter. Et je suis devenue mais folle, quoi. Et j'étais là, mais je peux consumer mon cœur dans l'amour d'une œuvre. Et ça s'est jamais démenti. Et voilà, après, c'est le truc très classique. Elle m'a accompagnée dans tous les moments de ma vie, facile, pas facile. Puis on n'a pas un écart d'âge de fou non plus. Donc il y avait un peu le truc de grandir ensemble. Et voilà, enfin, j'ai J'ai entortillé très sciemment, très consciemment, 1000 souvenirs personnels à cet album. Et en fait, j'y vois aussi une forme de trésor, c'est-à-dire que je peux écouter cet album n'importe quand je veux. Et je ressens 1000 choses. Et j'y vois, en fait, ça fait comme un coffre à trésors de souvenirs, quoi.
Et ce titre qu'on a choisi, Tim, il parle d'amitié dans un groupe d'adolescents. We live in cities you'll never see on screen. Nous vivons dans des villes que vous ne verrez jamais à l'écran. Est-ce que ça ressemblait un petit peu aussi à ça, votre adolescence ?
J'avais pas d'amis. Non, mais je pense que...
Ou le rêve, en tout cas.
Le rêve, la projection, bien sûr. Et puis, moi, j'avais vraiment ce truc de... j'attends la vraie vie. La vraie vie va commencer le jour de mes 18 ans ou le jour de mes 20 ans. Et surtout, la vraie vie va commencer le jour où je vais tomber amoureuse. Ce qui est voilà, quelque chose qu'on est beaucoup à penser et dont je pense par ailleurs que c'est pas forcément très sain et que ça ne nous fait pas forcément prendre les meilleures décisions. Mais j'étais vraiment, effectivement, dans cette attente. Je trouvais pas ma vie très intéressante et il y avait beaucoup ce truc de bientôt ça va être grandiose.
Ça va être mon heure.
Ouais, ça va être mon heure.
On va peut-être passer à votre troisième objet, c'est l'heure.
And finally, there was Mandalay. Mandalay, secretive and silent. Time could not mar the perfect symmetry of those walls. Moonlight can play odd tricks upon the fancy. And suddenly it seemed to me that light came from the windows. And then a cloud came upon the moon.
Alors, votre troisième objet, c'est le roman Rebecca de l'autrice britannique Daphné de Maurier, publié en 1938. On connaît peu le nom de Daphné de Maurier en France, pourtant c'est l'une des écrivaines les plus lues au Royaume-Uni, mais pas que, à qui on doit plusieurs scénarios de films d'Hitchcock, dont sont célèbres Les Oiseaux, mais aussi une adaptation de Rebecca en 1940, dont on vient d'écouter les premières secondes. Expliquez-nous un petit peu ce troisième choix du Panthéon amoureux.
Alors déjà, effectivement, là, on a entendu un extrait du film de Hitchcock qui est vraiment très chouette et que je vous recommande aussi, mais qui est vraiment très différent du film, notamment parce que sur le dernier tiers, il s'est fait un kiff. Il s'est dit, je vais en faire vraiment un thriller, je vais en faire une enquête de police avec la justice et tout le tribunal. Enfin, il est vraiment parti dans son truc de Hitchcock, quoi. Et c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et à mon sens, c'est une bonne adaptation parce qu'il a vraiment proposé quelque chose d'autre. Mais le roman n'est pas du tout comme ça. Puis pareil, il s'est fait tout un délire avec Mrs. Danvers. Enfin, le roman n'est pas comme ça. Bref, pas pour dire que le roman est mieux, je pense vraiment pas, mais en l'occurrence, c'est le roman qui me touche le plus. Et donc, pareil, je l'ai découvert à 13 ans, parce qu'il était au CDI du collège et j'y suis allée, quoi. Et je pense qu'encore une fois, c'est très cyclique, hein, cette émission, mais ça m'a énormément marquée en termes de récit qu'on se raconte. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un homme plus âgé, très riche, qui est veuf, et qui va la prendre comme seconde épouse. Et j'utilise volontairement ce terme qui la confère dans une position très passive, c'est-à-dire que vraiment, il la prend, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a son job et tout, il la prend, il est en mode « Allez, on y va !» et elle, en fait, elle est complètement ébahie, elle se dit « C'est la chance de ma vie, c'est l'amour de ma vie », et elle se pense amoureuse de lui, et en réalité, on comprendra bien vite qu'il n'y a pas de place pour elle dans son cœur, il n'y a pas de place pour elle dans sa vie, il n'y a pas de place pour elle dans sa maison, pour plein de raisons que je vous laisserai découvrir. Et voilà, c'est effectivement l'anti-conte de fées, l'anti-prince charmant, l'anti-coup de foudre. Et je pense que j'ai un peu, effectivement, appréhendé ça avec de plus en plus, je pense, de subtilité au fil de mes différentes lectures, alors que je prenais en âge, n'est-ce pas ? Mais je pense que dès 13 ans, j'ai senti un truc de... Waouh, en fait, c'est un peu ambigu et complexe et nuancé et trouble, et ça me pose vachement en question tout ça. Et ouais, globalement, je pense aussi que c'est un roman dont on aime énormément l'héroïne, parce que personne ne l'aime, et quelque part même la narration ne l'aime pas puisqu'elle n'a pas de prénom. C'est quelque chose qui est assez connu dans ce livre, qu'elle a. Donc en fait, elle est considérée de personne, mais au moins il y a nous qui la lisons et qui l'aimons, et ça, moi, il y a un truc qui me touche beaucoup là-dedans.
Parce que Rebecca, le titre du livre, en fait, c'est un fantôme. C'est
le nom de la première épouse donc de son mari, et qui effectivement est un fantôme extrêmement intéressant, parce que ce n'est pas un fantôme fantastique, mais un fantôme purement mémoriel, que c'est effectivement son souvenir, son influence qui demeure, et qui est toujours sur ce fil, où il y a quelques endroits où on a l'impression qu'elle existe encore, mais en fait on sait très bien que c'est pas un roman fantastique, mais son empreinte demeure.
Et ben voilà, Capucine Delattre, c'est déjà la fin de notre rendez-vous galant radiodiffusé. On peut peut-être rappeler les trois références culturelles de votre panthéon amoureux. Le film Il était temps de Richard Curtis, l'album Pure Héroïne de Lord et donc ce livre Rebecca de Daphné Dumaurier. Merci beaucoup. On mettra toutes ces références bien sûr sur le site de Radio Campus Paris à la page de Pour un flirt avec. Comme chaque mois, on va se quitter avec le générique de fin. C'est le choix musical des auditeurices. Pour participer, il faut nous envoyer une note vocale dans laquelle vous nous parlez d'un moment fort de votre vie affective associé à une chanson. Et ce soir, c'est Elisabeth qui nous partage un moment de la BO de sa vie où il est question d'amitié, de point de bascule et de paradis perdu. Le tout sur Johnny and Mary de Robert Palmer, mais dans la version reprise par Brian Ferry et Todd Terge en 2014.
Ça se passe un jeudi soir dans l'appart d'un de mes potes chez qui on est tout le temps fourré, je ne sais pas, jusqu'à 3-4 fois par semaine, entre mes, je dirais, 18 et peut-être 22-23 ans. Il doit être, je ne sais pas, 4 heures du mat, je crois qu'on a cours le lendemain, mais qu'on s'en fout un peu. Et ce n'est pas complètement comme d'habitude, parce que cet ami chez qui on est, on sait qu'il part finir ses études au Canada. Et là, il nous sort un peu l'air de rien qu'ensuite, il projette peut-être d'y rester travailler, qu'il projette peut-être même, je sais pas, d'y faire sa vie. Et moi, à ce moment-là, je sais déjà que je pars un an à New York et je me suis pas complètement posé la question de savoir si je rentrerais ou si j'y resterais. Mais tout à coup, il y a cette chanson qui passe et c'est sans doute un peu con, hein, parce que il se passe pas grand-chose, hein. C'est tout petit comme souvenir. Je suis dans un fauteuil avec probablement un rhum coca qui est pas ouf, voilà. Mais j'ai l'impression de vivre la fin de quelque chose. Et en effet, ça l'a été parce que cet ami, il est jamais rentré du Canada. Et moi, je suis rentrée de New York, mais c'était plus tout à fait pareil. Il y avait plus cet appartement qui était un peu notre sanctuaire. Et moi, j'étais plus tout à fait la même. Et je date bizarrement un peu la fin d'une forme d'innocence ou je sais pas d'insouciance avec ce morceau que je peux pas écouter sans que ça me rende nostalgique d'une sorte de petit je sais pas paradis perdu pour toujours et que j'ai l'impression d'un peu retrouver voilà l'espace d'un instant quand j'écoute ce morceau.
Pour cette image tout droit sortie du film de sa vie, je dois dire que ça nous touche toujours vraiment beaucoup d'entendre vos génériques de fin. Si vous voulez participer, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales avec la musique associée sur notre Instagram pour un flirt avec ou par mail pour un flirt avec @radiocampusparis.org.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre date radiophonique d'avril. De l'autre côté de la chandelle ce soir, c'était l'écrivaine Capucine Delattre qui vient de publier, je le rappelle, À la ville brûle, son roman De son sang. Merci infiniment d'être venue flirter avec nous. On n'a même pas eu le temps de parler de votre magnifique sac.
Merci, mais oui, mais la vie est mal faite. Faudra, oui, exactement, exactement.
Merci aussi à vous, Ivana LCX, de nous avoir si joliment séduite avec votre sérénade, votre EP Le Géant d'Or. Sort vendredi prochain, dans une semaine tout pile.
Merci.
Et on vous retrouve sur la péniche Anaco le 14 mai.
À
très bientôt.
Et à la réalisation ce soir, c'était Mélissandri. Et au visuel, comme toujours, Liz Niederkorn. Pour un flirt avec, c'est un vendredi par mois et ça se réécoute bien sûr sur les applis de podcast, mais aussi le site de Radio Campus Paris. Belle soirée, chers auditeurices, et à bientôt. Mary says he's lacking a real sense of proportion, so she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certain